25 absurdités. Voilà bien des voyages dans des terres inconnues. Ce n'est rien encore. Je me trouve comme un homme qui, ayant erré sur l'océan et apercevant les îles Maldives dont la mer Indienne est semée, veut les visiter toutes. Mon grand voyage ne m'a rien valu. Voyons si je ferai quelques gains dans l'observation de ces petites îles qui ne semble servir qu'à embarrasser la route. Il y a une centaine de cours de philosophie où l'on m'explique des choses dont personne ne peut avoir la moindre notion. Celui-ci veut me faire comprendre la Trinité par la physique. Il me dit qu'elle ressemble aux trois dimensions de la matière. Je le laisse dire et je passe vite. Celui-là prétend me faire toucher au doigt la transsubstantiation en me montrant par les lois du mouvement comment un accident peut exister sans sujet et comment un même corps peut être en deux endroits à la fois. Bon, je me bouche les oreilles et je passe plus vite encore. Pascal, Blaise Pascal lui-même, l'auteur des lettres provinciales, profère ces paroles. « Croyez-vous qu'il soit impossible que Dieu soit infini et sans partie ? Je veux donc vous faire voir une chose indivisible et infinie. C'est un point se mouvant partout d'une vitesse infinie, car il est en tout lieu, tout entier, dans chaque endroit. Un point mathématique qui se meut, juste ciel, un point qui n'existe que dans la tête du géomètre, qui est partout et en même temps, et qui a une vitesse infinie, comme si la vitesse infinie actuelle pouvait exister. » Chaque mot est une folie, et c'est un grand homme, pourtant, qui a dit ses folies. Votre âme est simple, incorporelle, intangible, me dit cet autre. Et comme aucun corps ne peut le toucher, je vais vous prouver par la physique d'Albert le Grand qu'elle sera brûlée physiquement si vous n'êtes pas de mon avis. Et voici, comme je vous le prouve a priori, en fortifiant Albert par les syllogismes d'Abelli. Je lui réponds que je n'entends pas son a priori, que je trouve son compliment très dur, que la révélation dont il ne s'agit pas entre nous peut seule m'apprendre une chose si incompréhensible et que je lui permets de n'être pas de mon avis sans lui faire aucune menace, et je m'éloigne de lui de peur qu'il ne me joue un mauvais tour, car cet homme me paraît bien méchant. Une foule de sophistes de tout pays et de toute secte m'accable d'arguments inintelligibles sur la nature des choses, sur la mienne, sur mon état passé, présent et futur. Si on leur parle de manger et de boire, de vêtements, de logements, des denrées nécessaires, de l'argent avec lequel on se les procure, tous s'entendent à merveille. S'il y a quelques pistoles à gagner, chacun d'eux s'empresse. Personne ne se trompe d'un denier. Et quand il s'agit de tout notre être, ils n'ont pas une idée nette. Le sens commun les abandonne. De là, je reviens à ma première conclusion, que ce qui ne peut être d'un usage universel, ce qui n'est pas à la portée du commun des hommes, ce qui n'est pas entendu par eux et par ceux qui sont le plus exercés leur faculté de penser, n'est pas nécessaire au genre humain. XXVI du meilleur des mondes. En courant de tous côtés pour m'instruire, je rencontrai des disciples de Platon. « Venez avec nous, me dit l'un d'eux. Vous êtes dans le meilleur des mondes. Nous avons bien surpassé notre maître. Il y avait de son temps que 5 mondes possibles, parce qu'il n'y a que 5 corps réguliers. Mais actuellement, qu'il y a une infinité d'univers possibles, Dieu a choisi le meilleur. Venez, vous vous en trouverez bien. » Je lui réponds humblement, « Les mondes que Dieu pouvait créer étaient ou meilleurs, ou parfaitement égaux, ou pires. Il ne pouvait prendre le pire, ce qui était égaux. Supposer qu'il y en eût ne valait pas la préférence. Ils étaient entièrement les mêmes. » On a pu choisir entre deux, prendre l'un c'est prendre l'autre. Il est donc impossible qu'il ne prît pas le meilleur. Mais comment les autres étaient-ils possibles? quand il était impossible qu'ils existassent. Il me fit de très belles distinctions, assurant toujours, sans s'entendre, que ce monde-ci est le meilleur de tous les mondes réellement impossibles. Même s'étant alors tourmenté de la pierre et souffrant des douleurs insupportables, les citoyens du meilleur des mondes me conduisirent à l'hôpital voisin. Chemin faisant, deux de ces bienheureux habitants furent enlevés par des créatures leur semblables. On les chargea de fer, l'un pour quelques dettes, l'autre sur un simple soupçon. Je ne sais pas si je fus conduit dans le meilleur des hôpitaux possibles, mais je fus entassé avec 2 ou 3 000 misérables qui souffraient comme moi. Il y avait là plusieurs défenseurs de la patrie qui m'apprirent qu'ils avaient été trépanés et disséqués vivants, qu'on leur avait coupé des bras, des jambes, et que plusieurs milliers de leurs généreux compatriotes avaient été massacrés dans l'une des 30 batailles données dans la dernière guerre, qui est environ la 100 000e guerre depuis que nous connaissons des guerres. On voyait aussi dans cette maison environ 1 000 personnes des deux sexes, qui ressemblaient à des spectres hideux, et qu'on frottait d'un certain métal, parce qu'ils avaient suivi la loi de la nature, et parce que la nature avait, je ne sais comment, pris la précaution d'empoisonner en eux la source de la vie. Je remerciai mes deux conducteurs. Quand on m'eut plongé un fer bien tranchant dans la vessie, et qu'on eut tiré quelques pierres de cette carrière, quand je fus guéri et qu'il ne me resta plus que quelques incommodités douloureuses pour le reste de mes jours, je fis mes représentations à mes guides, je pris la liberté de leur dire qu'il y avait du bon dans ce monde, puisqu'on m'avait tiré 4 cailloux du sein de mes entrailles déchirées, mais que j'aurais encore mieux aimé que les vessies eussent été des lanternes, que non pas qu'elles fussent des carrières. Je leur parlai des calamités, des crimes innombrables qui couvrent cet excellent monde. Le plus intrépide d'entre eux, qui était un Allemand, mon compatriote, m'apprit que tout cela n'est qu'une bagatelle. Ce fut, dit-il, une grande faveur du ciel envers le genre humain, que Tarquin viola Lucrèce et que Lucrèce se poignarda, parce qu'on chassa les tyrans et que le viol, le suicide et la guerre établirent une république qui fit le bonheur des peuples conquis. J'eus peine à convenir de ce bonheur. Je ne conçus pas d'abord quelle était la félicité des Gaulois et des Espagnols, dont on dit que César fit périr 3 000 000. Les dévastations et les rapines me parurent aussi quelque chose de désagréable. Mais le défenseur de l'optimisme n'en dénormit point. Il me disait, toujours comme le geôlier de Don Carlos, « Paix, mais c'est pour votre bien !» Enfin, étant poussé à bout, il me dit qu'il ne fallait pas prendre garde à ces globules de la terre où tout va de travers, mais que dans l'étoile de Sirius, dans Orion, dans l'œil du taureau et ailleurs, tout est parfait. Ben allons-y donc, lui dis-je. Un petit théologien me tira alors par le bras. Il me confia que ces gens-là étaient des rêveurs, qu'il n'était point du tout nécessaire qu'il y eût du mal sur la terre, qu'elle avait été formée exprès, pour qu'il n'y eût jamais que du bien. Et pour vous le prouver, sachez, me dit-il, que les choses se passèrent ainsi autrefois pendant 10 ou 12 jours. Hélas, lui répondis-je, c'est bien dommage, mon révérend père, que cela n'ait pas continué. 27. Des monades, etc. Le même Allemand se ressaisit alors de moi. Il m'endoctrina, m'apprit clairement ce que c'est que mon âme. Mais tout est composé de monades dans la nature. Votre âme est une monade, et comme elle a des rapports avec toutes les autres monades du monde, elle a nécessairement des idées de tout ce qui s'y passe. Ces idées sont confuses, ce qui est très utile, et votre monade, ainsi que la mienne, est un miroir concentré de cet univers. Mais ne croyez pas que vous agissiez en conséquence de vos pensées. Il y a une harmonie préétablie entre la monade de votre âme et toutes les monades de votre corps, de façon que, quand votre âme a une idée, votre corps a une action, sans que l'une soit la suite de l'autre. Ce sont deux pendules qui vont ensemble, ou si vous voulez, cela ressemble à un homme qui prêche tandis qu'un autre fait les gestes. Vous concevez aisément qu'il faut que cela soit ainsi dans le meilleur des mondes, car... 28. Des formes plastiques. Comme je ne comprenais rien du tout à ces admirables idées, un Anglais, nommé Cudworth, s'aperçut de mon ignorance à mes yeux fixes, à mon embarras, à ma tête baissée. « Ces idées, me dit-il, vous semblent profondes parce qu'elles sont creuses. Je vais vous apprendre maintenant comment la nature agit. Premièrement, il y a la nature en général. Ensuite, il y a des natures plastiques qui forment tous les animaux et toutes plantes. Vous entendez bien ? » ?»« Pas un mot, monsieur. Continuons donc. » Une nature plastique n'est pas une faculté du corps. C'est une substance immatérielle qui agit sans savoir ce qu'elle fait, qui est entièrement aveugle, qui ne sent, ni ne raisonne, ni ne végète. Mais la tulipe a sa forme plastique qui la fait végéter. Le chien a sa forme plastique qui le fait aller à la chasse. Et l'homme a la sienne qui le fait raisonner. Ces formes sont les agents immédiats de la divinité. Il n'y a point de ministres plus fidèles au monde, car elles donnent tout et ne retiennent rien pour elles. Voyez bien que ce sont là les vrais principes des choses, et que les natures plastiques valent bien l'harmonie préétablie et les monades qui sont les miroirs concentrés de l'univers. Je lui avouais que l'un valait bien l'autre. 29. De Locke. Après tant de courses malheureuses, fatigué, harassé, honteux d'avoir cherché tant de vérités et d'avoir trouvé tant de chimères, je suis revenu à Locke comme l'enfant prodigue qui retourne chez son père. Je me suis rejeté entre les bras d'un homme modeste qui ne feint jamais de savoir ce qu'il ne sait pas, qui, à la vérité, ne possède pas des richesses immenses, mais dont les fonds sont bien assurés et qui jouit du bien le plus solide sans aucune ostentation. Il me confirme dans l'opinion que j'ai toujours eue que rien n'entre dans notre entendement que par nos sens, qu'il n'y a point de notions innées, que nous ne pouvons avoir l'idée ni d'un espace infini ni d'un nombre infini, que je ne pense pas toujours et que par conséquent, la pensée n'est pas l'essence, mais l'action de mon entendement, que je suis libre quand je peux faire ce que je veux, que cette liberté ne peut consister dans ma volonté, puisque lorsque je demeure volontairement dans ma chambre dont la porte est fermée et dont je n'ai pas la clé, je n'ai pas la liberté d'en sortir, puisque je souffre quand je veux ne pas souffrir, puisque très souvent je ne peux rappeler mes idées quand je veux les rappeler. Qu'il est donc absurde, au fond, de dire « la volonté est libre », puisqu'il est absurde de dire « je veux vouloir cette chose », car c'est précisément comme si on disait « je désire de la désirer, je crains de la craindre », qu'enfin la volonté n'est pas plus libre qu'elle n'est bleue ou carrée. Que je ne puis vouloir qu'en conséquence des idées reçues dans mon cerveau, que je suis nécessité à me déterminer en conséquence de ces idées, puisque sans cela je me déterminerais sans raison et qu'il y aurait un effet sans cause. Que je ne puisse avoir une idée positive de l'infini, puisque je suis très fini. Que je ne puisse connaître aucune substance, parce que je ne puisse avoir d'idée que de leur qualité, et que mille qualités d'une chose ne peuvent me faire connaître la nature intime de cette chose, qui peut avoir 100 000 autres qualités ignorées. Que je suis la même personne qu'autant que j'ai de la mémoire et le sentiment de ma mémoire, car n'ayant pas la moindre partie du corps qui n'appartenait dans mon enfance, et n'ayant pas le moindre souvenir des idées qui m'ont affecté à cet âge, il est clair que je ne suis pas plus ce même enfant que je ne suis Confucius ou Zoroastre. Je suis réputé la même personne par ceux qui m'ont vu croître et qui ont toujours demeuré avec moi, mais je n'ai en aucune façon la même existence. Je ne suis plus l'ancien moi-même, je suis une nouvelle identité. Et de là, fou, quelle singulière conséquence! Qu'enfin, conformément à la profonde ignorance dont je me suis convaincu sur les principes des choses, il est impossible que je puisse connaître quelles sont les substances auxquelles Dieu et Dieu a accordé le don de sentir et de penser. En effet, y a-t-il des substances dont l'essence soit de penser, qui pensent toujours et qui pensent par elles-mêmes? En ce cas, ces substances, quelles qu'elles soient, sont des dieux, car elles n'ont nul besoin de l'être éternel et formateur, puisqu'elles ont leurs essences sans lui, puisqu'elles pensent sans lui. Et secondement, si l'être éternel a fait le don de sentir et de penser à des êtres, il leur a donné ce qui ne leur appartient pas essentiellement. Il a donc pu donner cette faculté à tout être, quel qu'il soit. Troisièmement, nous ne connaissons aucun être à fond, donc il est impossible que nous sachions si un être est incapable ou non de recevoir le sentiment et la pensée. Les mots de matière et d'esprit ne sont que des mots. Nous n'avons nulle notion complète de ces deux choses. Donc, au fond, il y a autant de témérité à dire qu'un corps organisé par Dieu même ne peut recevoir la pensée de Dieu même qu'il serait ridicule de dire que l'esprit ne peut penser. Quatrièmement, je suppose qu'il y a des substances purement spirituelles qui n'aient jamais eu l'idée de la matière et du mouvement. Seront-elles bien reçues à nier que la matière et le mouvement ne puissent exister ? Je suppose que la savante congrégation qui condamna Galilée comme impie et comme absurde pour avoir démontré le mouvement de la terre autour du soleil, eut-tu quelque connaissance des idées du chancelier Bacon, qui proposait d'examiner si l'attraction est donnée à la matière? Je suppose que le rapporteur de ce tribunal eut remontré à ces graves personnages qu'il y avait des gens assez fous en Angleterre pour soupçonner que Dieu pouvait donner à tous la matière, depuis Saturne jusqu'à notre petit tas de boue, une tendance vers un centre, une attraction, une gravitation, laquelle serait absolument indépendante de toute impulsion, puisque l'impulsion donnée par un fluide en mouvement agit en raison des surfaces et que cette gravitation agit en raison des solides. Ne voyez-vous pas ces juges de la raison humaine et de Dieu même dictaient aussitôt leurs arrêts, anatomisaient cette gravitation que Newton a démontrée depuis, prononçaient que cela est impossible à Dieu, et déclaraient que la gravitation vers un centre est un blasphème. Je suis coupable, ce me semble, de la même témérité, quand j'ose assurer que Dieu ne peut faire sentir et penser un être organisé quelconque. Cinquièmement, je ne puis douter que Dieu n'ait accordé des sensations, de la mémoire et par conséquent des idées à la matière organisée dans les animaux. Pourquoi donc nierais-je qu'il puisse faire le même présent à d'autres animaux? On l'a déjà dit, la difficulté consiste moins à savoir si la matière organisée peut penser qu'à savoir comment un être, quel qu'il soit, pense. La pensée a quelque chose de divin. Oui, sans doute, et c'est pour cela que je ne saurai jamais ce que c'est que l'être pensant. Le principe du mouvement est divin, et je ne saurai jamais la cause de ce mouvement dont tous mes membres exécutent les lois. L'enfant d'Aristote, étant en nourrice, a tiré dans sa bouche le téton qu'il suçait, en formant précisément avec sa langue qu'il retirait une machine pneumatique en pompant l'air, en formant du vide, tandis que son père ne savait rien de tout cela et disait au hasard que la nature abhorre le vide. L'enfant d'Hippocrate, à l'âge de 4 ans, prouvait la circulation du sang en passant son doigt sur sa main. Et Hippocrate ne savait pas que le sang circula. Mais nous sommes ces enfants, tous tant que nous sommes. Nous opérons des choses admirables et aucun des philosophes ne sait comment elles s'opèrent. Sixièmement, voilà les raisons, ou plutôt les doutes, que me fournit ma faculté intellectuelle sur l'assertion modeste de Locke. Je ne dis point encore une fois que c'est la matière qui pense en nous, mais je dis avec lui qu'il ne nous appartient pas de prononcer qu'il soit impossible à Dieu de faire penser la matière, qu'il est absurde de le prononcer et que ce n'est pas à mes vers de terre à borner la puissance de l'être suprême. Septièmement, j'ajoute que cette question est absolument étrangère à la morale, parce que, soit que la matière puisse penser ou non, quiconque pense doit être juste, parce que l'atome à qui Dieu aura donné la pensée peut mériter ou démériter, être puni ou récompensé, et durer éternellement, aussi bien que l'être inconnu appelé autrefois souffle et aujourd'hui esprit, dont nous avons encore moins de notions que d'un atome. Je sais bien que ceux qui ont cru que l'être nommé souffle pouvait seul être susceptible de sentir et de penser ont persécuté ceux qui ont pris le parti du sage Locke et qui n'ont pas osé borner la puissance de Dieu à n'animer que ce souffle. Mais quand l'univers entier croyait que l'âme était un corps léger, un souffle, une substance de feu, aurait-on bien fait de persécuter ceux qui sont venus nous apprendre que l'âme est immatérielle? Tous les pères de l'Église qui ont cru l'âme un corps délié auraient-ils eu raison de persécuter les autres pères qui ont apporté aux hommes l'idée de l'immatérialité parfaite? Non, sans doute, car le persécuteur est abominable. Donc ceux qui admettent l'immatérialité parfaite sans la comprendre ont dû tolérer ceux qui la rejetaient parce qu'ils ne la comprenaient pas. Ceux qui ont refusé à Dieu le pouvoir d'animer l'être inconnu appelé matière ont dû tolérer aussi ceux qui n'ont pas osé dépouiller Dieu de ce pouvoir, car il est bien malhonnête de se haïr pour des syllogismes. Trente. Qu'ai-je appris jusqu'à présent ? J'ai donc compté avec Locke et avec moi-même, et je me suis trouvé possesseur des 4 ou 5 vérités, dégagé d'une centaine d'erreurs et chargé d'une immense quantité de doutes. Je me suis dit ensuite à moi-même, ce peu de vérité que j'ai acquise par ma raison sera entre mes mains un bien stérile si je n'y puis trouver quelques principes de morale. Il est beau à un aussi chétif animal que l'homme de s'être élevé à la connaissance du maître de la nature, mais cela ne me servira pas plus que la science de l'algèbre si je n'en tire quelques règles pour la conduite de ma vie. 31. Y a-t-il une morale? Plus j'ai vu des hommes différents par le climat, les mœurs, le langage, les lois, le culte, et par la mesure de leur intelligence, et plus j'ai remarqué qu'ils ont tous le même fond de morale. Ils ont tous une notion grossière du juste et de l'injuste, sans savoir un mot de théologie. Ils ont tous acquis cette même notion dans l'âge où la raison se déploie, comme ils ont tous acquis naturellement l'art de soulever des fardeaux avec des bâtons et de passer un ruisseau sur un morceau de bois sans avoir appris les mathématiques. Il m'a donc paru que cette idée de juste et de l'injuste leur était nécessaire puisque tous s'accordaient en ce point dès qu'ils pouvaient agir et raisonner. L'intelligence suprême qui nous a formés a donc voulu qu'il y eût de la justice sur la terre pour que nous puissions y vivre un certain temps. Il me semble que n'ayant ni instinct pour nous nourrir comme les animaux, ni armes naturelles comme eux, et végétant plusieurs années dans l'imbécilité d'une enfance exposée à tous les dangers, le peu qui serait resté d'homme échappé aux dents des bêtes féroces, à la faim, à la misère, se serait occupé à se disputer quelque nourriture et quelques peaux de bêtes, et qu'ils se seraient bientôt détruits comme les enfants du dragon de Cadmus, sitôt qu'ils auraient pu se servir de quelque arme. Du moins, il n'y aurait eu aucune société si les hommes n'avaient conçu l'idée de quelque justice qui est le lien de toute société. Comment l'Égyptien qui élevait des pyramides et des obélisques et le site errant qui ne connaissait pas même les cabanes aurait-il eu les mêmes notions fondamentales du juste et de l'injuste, si Dieu n'avait donné de tout temps à l'un et à l'autre cette raison qui, en se développant, leur fait apercevoir les mêmes principes nécessaires, ainsi qu'il leur a donné des organes qui, lorsqu'ils ont atteint le degré de leur énergie, perpétuent nécessairement et de la même façon la race du Scythe et de l'Égyptien. Je vois une horde barbare, ignorante, superstitieuse, un peuple sanguinaire et usurier, qui n'avait pas même de terme dans son jargon pour signifier la géométrie et l'astronomie, et cependant, ce peuple a les mêmes lois fondamentales que le sage chaldéen qui a connu les routes des astres, et que le phénicien, plus savant encore, qui s'est servi de la connaissance des astres pour aller fonder des colonies bornes de l'hémisphère où l'océan se confond avec la Méditerranée. Tous ces peuples assurent qu'il faut respecter son père et sa mère, que le parjure, la calomnie, l'homicide sont abominables. Ils tirent donc tous les mêmes conséquences du même principe de leur raison développée. Utilité réelle, notion de la justice. La notion de quelque chose de juste me semble si naturelle, si universellement acquise par tous les hommes, qu'elle est indépendante de toute loi, de tout pacte, de toute religion. Que je redemande à un Turc, à un Guèbre, à un Malabar, l'argent que je lui ai prêté pour se nourrir et pour se vêtir, il ne lui tombera jamais dans la tête de me répondre « Ah, attendez que je sache si Mahomet, Zoroastre ou Brahma ordonne que je vous rende votre argent. » Non, il conviendra qu'il est juste, qu'il me paye, et s'il n'en fait rien, c'est que sa pauvreté ou son avarice l'emporteront sur la justice qu'il reconnaît. Je mets en fait qu'il n'y a aucun peuple chez lequel il soit juste, beau, convenable, honnête, de refuser la nourriture à son père et à sa mère quand on peut leur en donner, et que nulle peuplade n'a jamais pu regarder la calomnie comme une bonne action, non pas même une compagnon de bigot fanatique. L'idée de justice me paraît tellement une vérité du premier ordre à laquelle tout l'univers donne son assentiment, que les plus grands crimes qui affligent la société humaine sont tous commis sous un faux prétexte de justice. Le plus grand des crimes, du moins le plus destructif, et par conséquent le plus opposé au but de la nature, est la guerre. Mais il n'y a aucun agresseur qui ne colore ce forfait du prétexte de la justice. Les déprédateurs romains faisaient déclarer toutes leurs invasions justes par des prêtres nommés fessiales. Tout brigand qui se trouve à la tête d'une armée commence ses fureurs par un manifeste et implore le dieu des armées. Les petits voleurs eux-mêmes, quand ils sont associés, se gardent bien de dire « Allons voler, allons arracher à la veuve et à l'orphelin leur nourriture. » Ils disent « Soyons justes, allons reprendre notre bien des mains des riches qui s'en sont emparés. » Ils ont entre eux un dictionnaire qu'on a même imprimé dans le XVIe siècle. Et dans ce vocabulaire qu'ils appellent argot, les mots de vol, larcin, rapine ne se trouvent point. Ils se servent des termes qui répondent à gagner, reprendre. Le mot d'injustice ne se prononce jamais dans un conseil d'État où l'on propose le meurtre le plus injuste. Les conspirateurs, même les plus sanguinaires, n'ont jamais dit « commettons un crime ». Ils ont tous dit « vengeons la patrie, les crimes du tyran, punissons ce qui nous paraît une injustice ». En un mot, flatteurs lâches, monstres ministres barbares, conspirateurs odieux, voleurs plongés dans l'iniquité, tous rendent dommage, malgré eux, à la vertu même qu'ils foulent aux pieds. J'ai toujours été étonné que chez les Français, qui sont éclairés et polis, on ait souffert sur le théâtre ces maximes aussi affreuses que fausses qui se trouvent dans la première scène de Pompée et qui sont beaucoup plus outrées que celles de Lucain dont elles sont imitées. La justice et le droit sont de vaines idées. Le droit des rois consiste à ne rien épargner. Et on met ces abominables paroles dans la bouche de Fotin, ministre du jeune Ptolémée. Mais c'est précisément parce qu'il est ministre qu'il devait dire tout le contraire. Il devait représenter la mort de Pompée comme un malheur nécessaire et juste. Je crois donc que les idées du juste et de l'injuste sont aussi claires, aussi universelles que les idées de santé, de maladie, de vérité et de fausseté, de convenance et de disconvenance. Les limites du juste et de l'injuste sont très difficiles à poser. Comme l'état moyen entre la santé et la maladie, entre ce qui est convenance et la disconvenance des choses, entre le faux et le vrai, est difficile à marquer. Ce sont des nuances qui se mêlent, mais les couleurs tranchantes frappent tous les yeux. Par exemple, tous les hommes avouent qu'on doit rendre à ce qu'on nous a prêté, mais si je sais certainement que celui à qui je dois 2 millions s'en servira pour asservir ma patrie, dois-je lui rendre cette arme funeste? Voilà où les sentiments se partagent, mais en général, je dois observer mon serment quand il n'en résulte aucun mal. C'est de quoi personne n'en a jamais douté. Consentement universel est-il preuve de vérité? On peut m'objecter que le consentement des hommes de tous les temps et de tous les pays n'est pas une preuve de la vérité. Tous les peuples ont cru à la magie, aux sortilèges, aux démoniaques, aux apparitions, aux influences des astres, à cent autres sottises pareilles. Ne pourrait-il pas en être ainsi du juste et de l'injuste? Il me semble que non. Premièrement, il est faux que tous les hommes aient cru à ces chimères. Elles étaient à la vérité l'aliment de l'imbécilité du vulgaire. Et il y a le vulgaire des grands et le vulgaire du peuple. Mais une multitude de sages s'en est toujours moquée. Ce grand nombre de sages, au contraire, a toujours admis le juste et l'injuste, tout autant et même encore plus que le peuple. La croyance aux sorciers, aux démoniaques, etc., est bien éloignée d'être nécessaire au genre humain. La croyance à la justice est d'une nécessité absolue, donc elle est un développement de la raison donnée de Dieu, et l'idée des sorciers, des possédés, etc., est au contraire un pervertissement de cette même raison. 34. Contre Locke. Locke, qui m'instruit et qui m'apprend à me défier de moi-même, ne se trompe-t-il pas quelquefois comme moi-même? Il veut prouver la fausseté des idées innées, mais n'ajoute-t-il pas une bien mauvaise raison à de fort bonnes? Il avoue qu'il n'est pas juste de faire bouillir son prochain dans une chaudière et de le manger. Il dit que, cependant, il y a eu des nations d'anthropophages et que ces êtres pensants n'auraient pas mangé des hommes s'ils avaient eu les idées du juste et de l'injuste que je suppose nécessaires à l'espèce humaine. Sans entrer ici dans la question, S'il y a eu en effet des nations d'anthropophages, sans examiner les relations du voyageur d'Empier qui a parcouru toute l'Amérique et qui n'en a jamais vu, mais qui au contraire a été reçu chez tous les sauvages avec la plus grande humanité, voici ce que je réponds. Des vainqueurs ont mangé leurs esclaves pris à la guerre. Ils ont cru faire une action très juste. Ils ont cru avoir sur eux droit de vie et de mort. Et comme ils avaient peu de bons mets pour leur table, ils ont cru qu'il leur était permis de se nourrir du fruit de leur victoire. Ils ont été en cela plus justes que les triomphateurs romains qui faisaient étrangler sans aucun fruit les princes esclaves qu'ils avaient enchaînés à leur char de triomphe. Les Romains et les sauvages avaient une très fausse idée de la justice, je l'avoue, mais enfin, les uns et les autres croyaient agir justement. Et cela est si vrai que les mêmes sauvages, quand ils avaient admis leurs captifs dans leur société, les regardaient comme leurs enfants, et que ces mêmes anciens Romains ont donné 1000 exemples de justice admirable. 35. Contre Locke, suite. Je conviens avec le sage Locke qu'il n'y a point de notion innée, point de principe de pratique innée. C'est une vérité si constante qu'il est évident que les enfants auraient tous une notion claire de Dieu s'ils étaient nés avec cette idée et que tous les hommes s'accorderaient dans cette même notion, accord que l'on n'a jamais vu. Il n'est pas moins évident que nous ne naissons point avec des principes développés de morale, puisqu'on ne voit pas comment une nation entière pourrait rejeter un principe de morale qui serait gravé dans le cœur de chaque individu de cette nation. Je suppose que nous soyons tous nés avec le principe moral bien développé qu'il ne faut persécuter personne pour sa manière de penser. Mais comment des peuples entiers auraient-ils été persécuteurs? Je suppose que chaque homme porte en soi la loi évidente qui ordonne qu'on soit fidèle à son serment. Et comment tous ces hommes réunis encore auront-ils statué qu'il ne faut pas garder sa parole à des hérétiques? Je répète encore qu'au lieu de ces idées innées chimériques, Dieu nous a donné une raison qui se fortifie avec l'âge et qui nous apprend à tous, quand nous sommes attentifs, sans passion, sans préjugés, qu'il y a un Dieu et qu'il faut être juste, mais je ne puis accorder à Locke les conséquences qu'il en tire. Il semble trop approché du système de Hobbes, dont il est pourtant très éloigné. Voici ses paroles au premier livre de l'entendement humain. Considérez une ville prise d'assaut et voyez s'il paraît dans le cœur des soldats animés au carnage et au butin quelque égard pour la vertu, quelque principe de morale, quelque remords de toutes les injustices qu'ils commettent. Non, non, ils n'ont point de remords. Et pourquoi? Parce qu'ils croient agir justement. Aucun d'eux n'a supposé injuste la cause du prince pour lequel il va combattre. Ils hasardent leur vie pour cette cause. Ils tiennent le marché qu'ils ont fait. Ils pouvaient être tués à l'assaut. Donc ils croient être en droit de tuer. Ils pouvaient être dépouillés, donc ils pensent qu'ils peuvent dépouiller. Ajoutez qu'ils sont dans l'enivrement de la fureur, qui ne raisonne pas. Et pour vous prouver qu'ils n'ont point rejeté l'idée du juste et de l'honnête, proposez à ces mêmes soldats beaucoup plus d'argent que le pillage de la ville ne peut leur en procurer, de plus belles filles que celles qu'ils ont violées, pourvu seulement qu'au lieu d'égorger dans leur fureur 3 ou 4 000 ennemis qui font encore résistance et qui peuvent les tuer, ils aillent égorger leur roi, son chancelier, ses secrétaires d'État et son grand aumônier. Ah! Vous ne trouverez pas un de ces soldats qui ne rejette vos offres avec horreur. Vous ne leur proposez cependant que 6 meurtres au lieu de 4 000, et vous leur présentez une récompense très forte. Pourquoi vous refusent-ils? C'est qu'ils croient juste de tuer 4 000 ennemis et que le meurtre de leur souverain auquel ils ont fait serment leur paraît abominable. Locke continue, et pour mieux prouver qu'aucune règle de pratique n'est innée, il parle des Mingréliens qui se font un jeu, dit-il, d'enterrer leurs enfants tout vifs, et des Caraïbes qui châtrent les leurs pour les mieux engraisser afin de les manger. On a déjà remarqué ailleurs que ce grand homme a été trop crédule en rapportant ses fables. Lambert, qui seul impute aux Mingréliens d'enterrer leurs enfants tout vifs pour leur plaisir, n'est pas un auteur assez accrédité. Chardin, voyageur qui passe pour véridique et qui a été rançonné en Mingrélie, parlerait de cette horrible coutume si elle existait. Et ce ne serait pas assez qu'il le dit pour qu'on le crût. Il faudrait que 20 voyageurs de nations et de religions différentes s'accordassent à confirmer un fait si étrange pour qu'on en eût une certitude historique. Il en est de même des femmes des îles Antilles qui châtraient leurs enfants pour les manger. Cela n'est pas dans la nature d'une mère. Le cœur humain n'est point fait ainsi. Châtrer des enfants est une opération très délicate, très dangereuse, qui, loin de les engraisser, les amaigrit au moins une année entière, et qui souvent les tue. Ce raffinement n'a jamais été en usage que chez les grands qui, pervertis par l'excès du luxe et par la jalousie, ont imaginé d'avoir des eunuques pour servir leurs femmes et leurs concubines. Il a été adopté en Italie et à la chapelle du pape que pour avoir des musiciens dont la voix fut plus belle que celle des femmes. Mais dans les îles Antilles, il n'est guère à présumer que les sauvages aient inventé le raffinement de châtrer les petits garçons pour en faire un bon plat. Et puis, qu'auraient-ils fait alors de leurs petites filles ? Locke allègue encore des saints de la religion mahométane qui s'accouplent dévotement avec leurs ânesses pour n'être point tentés de commettre la moindre fornication avec les femmes du pays. Il faut mettre ses comptes avec celui du perroquet qui eut une si belle conversation en langue brésilienne avec le prince Maurice, conversation que Locke a la simplicité de rapporter sans se douter que l'interprète du prince aurait pu se moquer de lui. C'est ainsi que l'auteur de l'Esprit des lois s'amuse à citer de prétendues lois de Tonkin, de Bantam, de Bornéo, de Formose, sur la foi de quelques voyageurs ou menteurs ou mal instruits. Locke et lui sont deux grands hommes en qui cette simplicité ne me semble pas excusable. XXXVI. Nature partout la même. En abandonnant Locke en ce point, je dis avec le grand Newton « Natura semper sibi consona » « La nature est toujours semblable à elle-même. » La loi de la gravitation qui agit sur un astre agit sur tous les astres, sur toute la matière, ainsi la loi fondamentale de la morale agit également sur toutes les nations bien connues. Il y a 1000 différences dans les interprétations de cette loi en telles 1000 circonstances, mais le fond subsiste toujours le même, et ce fond, c'est l'idée du juste et de l'injuste. On commet prodigieusement la justice dans les fureurs de ses passions, comme on perd sa raison dans l'ivresse. Mais quand l'ivresse s'est passée, la raison revient. Et c'est, à mon avis, l'unique cause qui fait subsister la société humaine, cause subordonnée aux besoins que nous avons les uns des autres. Mais comment donc avons-nous acquis l'idée de la justice ? Comme nous avons acquis celle de la prudence, de la vérité, de la convenance, par le sentiment et par la raison. Il est impossible que nous ne trouvions pas très imprudente l'action d'un homme qui se jetterait dans le feu pour se faire admirer et qui espérait en échapper. Il est impossible que nous ne trouvions pas très injuste l'action d'un homme qui en tue un autre dans sa colère. La société n'est fondée que sur ces notions qu'on n'arrachera jamais de notre cœur. Et c'est pourquoi toute société subsiste à quelque superstition bizarre et horrible qu'elle se soit asservie. Quel est l'âge où nous connaissons le juste et l'injuste ? Oh, l'âge où nous connaissons que 2 et 2 font 4.